Allô, Jim? Jim au réveil?
On peut pas danser, on peut même pas voler. C'est pas la peine de me réveiller.
Bienvenue.
Salut.
Salut.
Bienvenue.
Salut.
Bienvenue.
Bienvenue. Salut.
Bienvenue sur le podcast Éveille ta pépite, un podcast optimiste pour les étudiants et les doctorants qui ont envie d'entreprendre.
Alerte! Oh, réveillez-vous! Oh, hey, oh!
C'est bien connu que vous avez une drôle d'idée de la drôlerie.
Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour le podcast Éveille ta pépite. Aujourd'hui, nous allons parler d'innovation. En effet, nous parlons souvent de l'innovation dans la sphère entrepreneuriale, que le projet doit être innovant pour se lancer, que la créativité est synonyme d'innovation, que l'innovation est forcément technologique. Mais l'innovation est un concept large. D'ailleurs, la racine latine innovatio renvoie à la notion de changement, renouvellement. Selon l'OCDE, en fait, une innovation est la mise en œuvre d'un produit, un bien ou un service, ou d'un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, d'une nouvelle méthode aussi de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques de l'entreprise, son organisation du lieu de travail ou les relations extérieures. Donc vous l'avez bien compris, l'innovation regroupe des conceptions différentes selon la vision que l'on adopte, mais aussi l'objet que l'on cherche à analyser. Nous pouvons avoir autant des définitions économiques, managériales, que aussi des définitions en sociologie qui analysent les processus d'innovation au sein des groupes sociaux. Mais aujourd'hui, je vous embarque à l'Université de Poitiers, avec la rencontre de Romain Lefebvre, qui est directeur adjoint et responsable du pôle innovation du SPVR, et aussi la rencontre de Élie Morin, qui est docteur et entrepreneur, qui est spécialisé en cartographie pour accélérer la transition écologique des territoires. Donc bonjour à tous les deux, merci de vous être rendus disponibles pour le podcast Éveille ta pépite. Votre parcours universitaire et professionnel est en lien avec l'innovation et vous œuvrez vous-même pour l'innovation technologique. Il me semble que vous êtes tous les deux docteurs. Comment est venue cette envie de faire un doctorat ?
Bien, merci de m'inviter aujourd'hui à ce podcast. Donc, je m'appelle Élie Morin. Est-ce que j'avais envie de faire un doctorat ? Oui et non. Quand j'ai commencé mes études en licence de biologie, ce que je voulais, c'était en apprendre plus sur la nature, le fonctionnement des animaux, sur différents plans, que ce soit le comportement des animaux, c'est hyper intéressant je trouve, et leur fonctionnement à l'échelle individuelle, donc comment fonctionnent les cellules, qu'est-ce que la génétique modifie chez les individus. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant de comprendre le fonctionnement et de voir le pourquoi. Donc une fois que je me suis intéressé à ces aspects en biologie, j'ai poursuivi avec un master d'écologie. Et le master d'écologie, en fait, on s'est intéressé à vraiment les interactions, enfin on s'intéresse aux interactions entre l'écosystème, donc l'environnement, et les organismes vivants qui sont à l'intérieur et leurs interactions. Et donc ça, en fait, ça cultive une certaine curiosité, comprendre comment ça fonctionne. Et c'est un peu à partir du master où je me suis dit, j'ai envie de réaliser une thèse pour poursuivre mes recherches. C'est-à-dire que si on veut creuser un sujet scientifique, on ne peut pas le faire en dehors de l'aspect académique, en dehors de l'aspect de la recherche. Donc c'était vraiment ça l'idée. Je voulais continuer d'étudier la génétique et le paysage à travers une problématique de recherche. Et c'est comme ça en fait que je me suis dit, je veux faire une thèse. Et il y a eu une opportunité qui s'est présentée à Poitiers, donc j'ai candidaté, pour remettre un petit peu en perspective tout ça. Une thèse, c'est comme une offre d'emploi. C'est-à-dire qu'il y a une offre qui est postée, et il y a des candidatures, et donc il y a une sélection du meilleur candidat pour y arriver. Donc voilà, une thèse, c'est un peu comme un travail, un CDD pendant 3 ans, où on est sélectionné, et ensuite on peut développer notre problématique de recherche en étant encadré et en allant très très loin sur un sujet précis. Souvent c'est un sujet de niche que peu de gens comprennent, mais voilà, c'est toujours très passionnant d'échanger directement avec des experts sur le sujet et de se former en tant qu'expert sur un sujet bien précis.
Bonjour, alors merci pour votre invitation, je suis Romain Lefebvre.
J'avais pas du tout l'envie de faire un doctorat initialement quand je suis arrivé à l'université, donc j'ai commencé tout simplement par une licence. C'était d'ailleurs la première année où il y avait le système LMD qu'on connaît maintenant. Avant c'était des DUG, donc c'était en 2 ans. Là j'ai commencé par une licence, et puis après un master et enfin un doctorat. Et au fur et à mesure des années d'université, j'étais en contact avec les chercheurs qui sont là pour enseigner et faire de la recherche en même temps. Et au fur et à mesure des années, j'ai découvert de nouvelles disciplines, notamment la physiologie, et des enseignants qui, au fur et à mesure des années, m'ont enseigné ce qu'ils faisaient au sein des laboratoires. Et là, ça m'a vraiment très intéressé parce que c'était des nouvelles disciplines complètement inconnues, et puis des questionnements réguliers des chercheurs pour savoir faire avancer les connaissances et pouvoir découvrir de nouvelles choses. Et ça, moi, je suis une nature assez curieuse et donc du coup, ça m'a tout de suite intrigué et incité à faire un doctorat au niveau de mon parcours. Sachant que, au début, on se dit un doctorat c'est très long et on a quand même une montée entre guillemets en puissance entre la licence, le master et le doctorat, et on voit pas forcément les années passer. Et quand en plus on tombe sur un laboratoire qui est passionnant avec des personnes qui vous accueillent et qui vous accompagnent pour ce projet, c'est très motivant.
Merci pour vos réponses. Après avoir soutenu votre thèse, quelle a été la suite de votre parcours professionnel ?
J'ai réalisé un an en tant que chercheur au laboratoire écologie et biologie des interactions de Poitiers, donc dans le même laboratoire, sur les mêmes thématiques que les thématiques de ma thèse. Donc l'objectif, c'était de mieux modéliser, de mieux comprendre comment les animaux se déplacent autour de nous, comment ils utilisent l'espace, comment un écureuil fait pour aller d'une forêt à une autre. Est-ce qu'il longe une lignée d'arbres? Est-ce qu'il peut traverser une surface de prairie, etc.? Donc ça, c'est hyper important pour aménager notre territoire et limiter notre impact sur la biodiversité. Donc une fois que j'ai travaillé sur ces thématiques de recherche pendant ma thèse, j'ai continué pendant un an avec mon directeur de thèse sur ces thématiques, et j'ai aussi travaillé sur la thématique des îlots de chaleur urbains. Et donc d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on pouvait les modéliser et quels impacts ils pouvaient avoir sur la biodiversité et sur les humains. Ça, c'était pendant l'année 2023, et pendant cette année-là, je me suis aussi posé la question, qu'est-ce que je fais après ? Je voulais être enseignant-chercheur à la base, et c'est un métier qui est assez difficile, de par la sélection qu'il y a autour de chacun des postes, mais aussi sur les charges d'enseignement, la manière de faire sa recherche, etc. Et finalement, je me suis dit, la recherche que j'ai développée, les compétences que j'ai développées, elles peuvent servir autrement à la société. Donc en créant une société qui s'appelle aujourd'hui Pictamap, que j'ai créée en février 2024. Et donc pendant cette année 2023, c'était vraiment l'année de transition où j'ai à la fois travaillé en tant que chercheur, mais j'ai aussi travaillé à l'ouverture de l'entreprise. Donc j'ai fait beaucoup de communication et j'ai travaillé sur justement la création de Pictamap en parallèle.
Donc après la soutenance de ma thèse, et même un petit peu j'en avais réfléchi un peu en amont, parce qu'en général on n'attend pas la soutenance pour se dire qu'est-ce qu'on va faire après. En tout cas, c'était pas forcément moi ce que j'avais en tête, et on en avait discuté avec mon directeur de thèse. J'ai décidé de faire une formation en propriété industrielle, propriété intellectuelle, qui est située à Strasbourg, à l'université de Strasbourg, qui s'appelle le CEPI, le Centre d'études internationales de la propriété industrielle, et qui forme des jeunes docteurs ou des ingénieurs à la propriété industrielle, sachant qu'il faut avoir un bagage technique avant de faire cette formation-là, spécialement par exemple sur les inventions, les brevets. Suite à cette formation-là, j'ai fait un stage en cabinet de propriété industrielle, donc les cabinets qui se chargent de rédiger des demandes de brevets et de suivre des brevets, d'accompagner les personnes qui innovent, qui font des inventions. Et puis après, je suis rentré dans une entreprise de formulation de médicaments à Lyon, et ensuite je suis monté sur Paris pour travailler dans une biotech, donc une société qui avait pour but de trouver des traitements thérapeutiques sur tout ce qui était maladies neurodégénératives et maladies neuromusculaires. Voilà. Suite à cette expérience qui a été assez dense, puisqu'on a fait une entrée en bourse, donc pour une société c'est pas du tout négligeable, et il y avait des aspects autres que la propriété industrielle dans mes missions, je suis allé à Lyon dans une société d'accélération de transfert de technologie, donc ce qu'on appelle aussi une SAT, qui s'appelle Pulsalis, et qui est là pour valoriser les résultats de recherche des laboratoires publics. Suite à cette expérience-là, je suis arrivé sur Poitiers parce que j'avais une appétence pour revenir dans la région. Donc du coup, je suis arrivé en tant qu'ingénieur ingénieur brevet et chargé d'affaires au sein de l'agence Ailleurs Transfert. Et c'est le SPVR qui m'a accueilli, puisque le SPVR faisait partie de cette agence avec la Technopole Grand Poitiers sur le site de Poitiers.
Élie, suite à ton doctorat où tu as du coup travaillé sur la modélisation des déplacements des animaux et aussi donc les conséquences des îlots de chaleur sur la biodiversité, donc tu as créé ton activité entrepreneuriale PictaMap, tu en as parlé tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les services que tu proposes, s'il te plaît?
Alors c'est quoi PictaMap? PictaMap, c'est l'entreprise que j'ai créée en février 2024 qui vise à transposer la recherche que j'ai développée au sein du laboratoire pour la société. Et concrètement, l'idée, c'est d'apporter des outils cartographiques et des solutions pour l'aménagement du territoire à travers trois services. Premier service, surveiller l'environnement. Surveiller cartographier l'environnement à travers des outils satellites, aériens, des analyses d'images pour suivre la végétation, savoir si on a beaucoup de végétation en ville, où est-ce qu'elle est distribuée cette végétation, si suivre les haies, par exemple en milieu rural, en fait ces informations vont jouer un rôle important dans la qualité de l'environnement, et donc quelque part la qualité de l'environnement pour la qualité de vie humaine. Donc ça, c'est assez important à prendre en compte, la qualité de l'environnement, à travers ces outils-là. Deuxième service, des outils pour la biodiversité. Donc prendre en compte la biodiversité sur un territoire, ça fait écho à mes thématiques de recherche sur les corridors écologiques, savoir comment un écureuil fait pour aller d'un point A à un point B. Donc l'idée, c'est de fournir des modélisations, de savoir comment un écureuil, un hérisson, se déplace sur le territoire pour améliorer notre territoire, améliorer la santé de la biodiversité. Et troisième service, lié aux îlots de chaleur urbains, donc l'effet microclimatique. L'effet îlot de chaleur urbain, pour préciser, c'est une augmentation de la température en milieu urbain dense par rapport à son environnement proche. Donc par exemple, ça peut être une augmentation de la température de 2 à 10 degrés de plus en période de canicule par rapport à son environnement autour. Et donc pour contrer ça, on a besoin d'identifier les îlots de chaleur, donc les zones où il va y avoir cette augmentation de la température, et les îlots de fraîcheur, où on va avoir justement une température qui va être tamponnée par la végétation, la création d'ombre, etc. Donc ça, c'est le troisième service, améliorer un petit peu l'effet microclimatique local pour améliorer là encore la qualité de vie humaine. Donc ces trois services, suivre l'environnement, suivre la biodiversité et suivre les îlots de chaleur urbains, ça permet de modéliser ce qu'il y a aujourd'hui et de réaliser des modélisations, des simulations sur l'aménagement du territoire futur pour justement améliorer la santé des territoires au regard des populations humaines aussi.
Merci Élie pour tes réponses. Romain, il me semble que le SPVR est aussi mutualisé avec d'autres structures. Quelles sont ses missions dans les différents pôles, s'il te plaît?
Donc le SPVR, pour résumer, donc c'est le service de partenariat et de valorisation de la recherche. C'est des services qui sont assez communs, on va dire qu'on entre sur tous les sites universitaires de France. La particularité à Poitiers, c'est qu'il est mutualisé entre l'ISAE ENSMA, donc l'école d'ingénieurs en aéronautique, le CNRS et l'Université de Poitiers. Il est composé de quatre grands pôles. Le premier pôle, c'est le pôle ingénierie projet. Donc là, on aide les chercheurs à trouver de l'argent avec des appels à projets, par exemple. Le second pôle, c'est le pôle partenariat. Donc là, on va, au niveau contractuel, accompagner les chercheurs pour bien sécuriser les collaborations de recherche avec les partenaires extérieurs. Ça peut être des partenaires privés ou des partenaires publics, d'autres universités ou des partenaires, des grands groupes par exemple, ou des PME. Et puis le dernier pôle, c'est le pôle innovation, dont je suis responsable maintenant, où là on va en bout de chaîne, on va dire, une fois que les résultats de recherche ont abouti, sont présents, à aider les chercheurs à distinguer s'il y a des inventions, s'il y a des innovations issues des résultats de recherche. On va ces résultats de recherche qui peuvent aboutir à une innovation, les protéger avec des brevets, des logiciels, du droit d'auteur. Et puis il peut y avoir une étape de prématuration ou de maturation, donc là c'est typiquement ce que fait l'agence Air Transfert. Le but, c'est une fois qu'une preuve de concept a été générée par les laboratoires, c'est de monter en échelle. Alors pour les innovations techniques, on a une échelle TRL, donc Technical Readiness Level, pour se dire voilà, où est-ce que je me situe entre le moment où j'ai montrer le concept que j'avais dans la tête et je l'ai vérifié sur une paillasse, et puis le moment où je le transfère et je l'exploite en vendant des biens ou des services qui contiennent cette invention. Donc sur toute cette chaîne-là, nous on essaye de monter le plus possible pour pouvoir après le transférer à des sociétés qui sont en capacité de l'exploiter, puisque les établissements publics de recherche n'ont pas pour mission d'exploiter directement les résultats de recherche. C'est ce qu'on appelle le transfert.
Merci à vous. Donc vous avez tous les deux un parcours dans le secteur de l'innovation. L'innovation est employée sur différentes facettes en fonction de la nature de l'activité, mais aussi du domaine. Aujourd'hui, nous nous concentrons principalement sur l'innovation technologique. Pour vous, comment définissez-vous l'innovation, s'il vous plaît ?
En fait, le plus simple, je pense, c'est de se baser sur les critères d'éligibilité à des choses qui sont mises en place à l'échelle nationale, comme le crédit impôt innovation, le C2I, qui définit l'innovation sur 4 critères. Donc il faut qu'une innovation améliore les performances soit en matière technique, soit en matière ergonomique, soit en matière de fonctionnalité, ou soit en matière d'éco-conception. Donc ça, c'est une base que je trouve assez intéressante, parce qu'on est, on peut être évalué sur cette base-là. Est-ce que notre produit, il répond à un de ces critères ? Est-ce que c'est un produit ? Est-ce que c'est un service ? Par exemple, Airbnb, ça va plutôt être un service, une idée. Donc ça va être une idée qui va être mise à disposition à travers une application. Mais ça peut être un produit innovant qui va révolutionner en matière d'éco-conception ou en matière d'ergonomie, qui va révolutionner notre manière d'utiliser un objet en particulier. Voilà un peu pour les critères très larges. Et mon innovation, entre guillemets, elle rentre en compte dans ce qu'on appelle plutôt une innovation technologique. Pas de rupture, mais dite un peu deep tech. Deep tech dans le sens où c'est une technologie qui est développée avec des outils de pointe. Donc ce qu'on fait en laboratoire, c'est on a à disposition des technologies et des moyens différents d'une innovation qu'on peut faire chez soi, ou qu'on peut avoir une idée qu'on peut avoir chez soi. Mais cette innovation deep tech, en fait, elle répond à différents critères. Donc à la fois la rupture technologique, l'innovation deep tech, ça va porter plusieurs critères. Donc déjà la rupture technologique, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de technologie il n'existe pas encore cette technologie sur le marché. Par exemple, ça peut être la création d'un nouveau médicament. Voilà, là on est sur une rupture technologique, ça n'existe pas, et on a mis en place un procédé qui permet de créer un nouveau médicament ou de le faire avec des coûts bien inférieurs, et donc de le rendre plus accessible. Ça peut être un marché de niche aussi, et donc il y a l'innovation deep tech qui est en lien direct avec la recherche scientifique, donc la R&D, ce qu'on peut appeler la R&D, la recherche et développement, que ce soit au sein d'un organisme public ou privé, qui va faire intervenir une innovation incrémentale, c'est-à-dire qui va améliorer un produit existant, une innovation adjacente qui consiste à attribuer un nouvel usage à un produit existant ou à le positionner sur un nouveau marché. Et enfin, celle qu'on rencontre le plus aujourd'hui, celle qui parle le plus, c'est l'innovation de rupture, souvent technologique, qui fait naître une nouvelle catégorie de produits ou de services et qui finit par remplacer une technologie dominante sur un marché.
Alors, pour moi, la définition de l'innovation, c'est d'apporter une solution à un besoin de la société. Cette solution, ça peut être une invention, ça peut être un logiciel, un savoir-faire. En tout cas, c'est par exemple pour une invention, c'est une invention qui répond à un besoin de la société. Alors là, pour les inventions, on va parler de solutions techniques à un problème technique. Mais ça veut dire qu'il faut bien avoir identifié ce problème technique-là. Et on a beaucoup d'inventions qui, en fait, ne sont pas des innovations parce qu'elles ne répondent pas à un besoin de la société. Donc souvent, pour savoir si on est en face d'une innovation, il faut faire ce qu'on appelle, par exemple, des études marché et voir si les personnes à qui on transférerait cette technologie-là sont en capacité de répondre à un besoin de la société.
Donc Élie, quand on devient entrepreneur, j'imagine qu'on découvre plein de nouveaux domaines. Pour certains, c'est pas toujours évident de savoir aussi si son projet est innovant. Pour toi, comment peut-on évaluer que son projet est innovant, s'il te plaît ?
Pour qu'un projet soit innovant, je trouve que le plus simple, comme je le disais au début, c'est de regarder les critères d'éligibilité au crédit innovation, crédit impôt innovation, et de savoir si le produit il répond à un des critères éco-conception, ergonomie, etc. Donc ça, je trouve que c'est intéressant, et de confronter les regards sur le produit avec des personnes qui sont expertes en innovation. Donc par exemple, là sur Grand Poitiers, on a l'incubateur d'entreprises innovantes, de start-up Néologie Technopole, qui est un organisme qui vise à accompagner les projets innovants, quels qu'ils soient. On a aussi le SPVR à l'université, qui là va plutôt accompagner des projets issus de laboratoires. Donc là, l'innovation, elle est en général acquise, mais l'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'elle peut être transférable du laboratoire à une entreprise, une société privée. Et donc, il faut essayer de voir si ça répond aux critères et de se rapprocher de personnes expertes, selon moi.
Donc merci Élie d'avoir défini les différents critères des projets qui sont innovants. Romain aussi, nous pouvons rapidement faire des raccourcis entre les concepts d'invention et d'innovation. Pour toi, est-ce que l'innovation est forcément liée à une invention ?
Alors non, l'innovation n'est pas forcément reliée à une invention, puisque moi j'ai une définition assez stricte de l'invention, une définition juridique, c'est-à-dire qu'une invention c'est quelque chose qui est nouveau et qui a une activité inventive. En tout cas c'est comme ça que le code de la propriété industrielle le définit, et donc du coup on a, notamment dans les laboratoires de recherche, pas seulement des inventions, on a aussi du savoir-faire. C'est par exemple le meilleur mode d'un procédé de chimie qui n'est pas forcément inventif, mais qui est nouveau, qui n'est pas connu dans la bibliographie. On a aussi des logiciels et on a aussi du droit d'auteur. Et tous ces actifs, on va dire, de propriété industrielle peuvent être des innovations.
C'est mon passe-partout. C'est une invention à moi. Je la ferai breveter.
Original, ça se défend comme idée.
Merci, parce que du coup on comprend bien cette nuance entre invention et innovation. En fait, je me posais la question la dernière fois, est-ce que le fait de mener un projet innovant ouvre automatiquement des portes de développement selon vous ?
Ça peut ouvrir des portes, mais ça peut être plus compliqué qu'une simple entreprise. C'est-à-dire que si on a un projet innovant, on peut aller solliciter des dispositifs d'aide à la région, auprès de l'État, auprès de BPI, donc des financeurs qui peuvent attribuer des subventions ou des prêts pour développer une innovation. Donc si on est innovant, on va rentrer dans des cases et avoir des dispositifs pour nous aider à développer notre projet. Par contre, si c'est innovant, ça sera en général difficile d'aller directement sur le marché. Donc, il y aura tout un programme qui, justement, reposera sur des subventions pour essayer de développer l'entreprise en attendant qu'elle soit rentable et pour développer vraiment le produit et le transformer en outil, en produit, en service utile à la société et commercialisable. Donc il y a tout un dispositif qui peut être plus long et plus difficile à mettre en place qu'une activité où on a simplement un service qui est très commun et qui répond déjà à un besoin identifié.
Alors, le fait de mener un projet innovant n'ouvre pas forcément, de mon point de vue, vers du développement. Une idée innovante, il faut la concrétiser. Enfin, en tout cas, il y a tout un projet de pouvoir la transférer. Du coup, le seul fait d'avoir une idée innovante ne suffit pas à aboutir à un développement de cette innovation. In fine, il faut vraiment travailler en équipe. Il y a beaucoup de points à gérer sur... par exemple, savoir faire un business plan, savoir s'il y a un marché économique ou si on n'est pas sur un marché économique, est-ce qu'on va apporter, qu'est-ce qu'on va apporter comme valeur à la société, comme proposition de valeur. Donc ça, c'est toutes des questions qui sont très importantes. Avec cette solution innovante-là, si on n'y a pas répondu, bah, in fine, on ne va pas forcément réussir à développer son projet et le projet ne va pas aboutir avec un succès.
Donc pour toi, Élie, dans ton parcours, j'imagine que cela n'a pas été aussi toujours linéaire. As-tu en fait rencontré des obstacles lors du lancement de ton activité entrepreneuriale? Et si oui, comment en fait tu les as surmontés?
On rencontre toujours des obstacles quand on innove, que ce soit en laboratoire, donc avant même de créer une société par exemple, sauf si on fait de la R&D au sein d'une société privée. En laboratoire, on rencontre toujours des obstacles, c'est-à-dire qu'on imagine une expérimentation et on a un problème, on a une manipulation qui a raté. Donc il faut toujours se remettre en question et savoir pourquoi et recommencer. Donc c'est un peu les échecs parfois qui font qu'on arrive à innover, paradoxalement. Et donc en laboratoire, on a toujours ce côté-là, obstacle et dépassement de soi, j'ai envie de dire. Ça devient presque personnel, souvent c'est quelque chose qui nous anime et c'est une passion. Et côté recherche privée, donc vraiment quand on part du produit ou du service et qu'on essaie de le transformer en quelque chose d'utile pour la société, alors là c'est encore plus compliqué, parce que entre ce qu'on pensait être utile à la société et ce qu'il est vraiment, il y a un gap énorme. Donc c'est là où on a besoin d'être en relation avec des experts, comme je disais, sur le sujet. Donc le SPVR, Néologie Technopole, nous confronte à certains problèmes. Ils nous mettent aussi en relation avec des personnes ou des potentiels clients qui identifient des problématiques et nous disent, ben, nous, c'est pas vraiment ça qui nous importe, c'est plutôt ce côté-là. Et c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément et qui sont plus ou moins faciles à traiter. Donc entre l'innovation qu'on peut faire en laboratoire et l'innovation finale, il y a un vide énorme qu'il faut prendre en compte, je pense, dès le début. Et partir du besoin du client, c'est un peu bateau de dire ça, mais aller le plus tôt possible auprès des clients, auprès de l'utilisateur, et améliorer et tordre l'innovation si elle est déjà existante, ou créer une innovation à partir de ce problème identifié par les clients ou les utilisateurs.
Merci Élie. Je me posais aussi la question, Romain, dans ton parcours au sein du SPVR, tu rencontres beaucoup de projets innovants. Est-ce qu'il y a un projet qui t'a marqué particulièrement ?
Alors, un projet qui m'a marqué récemment au niveau de la valorisation de la recherche, c'est un projet qu'on accompagne depuis 2020 environ, enfin même un peu avant, puisqu'il y avait un projet de recherche avec l'ANR entre un laboratoire de Poitiers et puis un laboratoire de Paris. Le laboratoire à Poitiers, c'est l'Institut de chimie et des matériaux de Poitiers. Et donc, c'est un projet qui concerne les superacides avec de la microfluidique, c'est-à-dire un système qui permet de faire des molécules qui n'ont jusqu'à maintenant pas été faites et qui permettent potentiellement d'avoir de nouveaux candidats médicaments, donc des médicaments qui n'ont pas été synthétisés jusqu'à maintenant. Et donc c'est un projet qui a été suivi par le service au niveau du financement avec un projet ANR, et puis après on a accompagné les chercheurs pour détecter quelles étaient les inventions, les savoir-faire au sein des résultats, et puis après la protection de ces inventions, la consignation du savoir-faire, de la prématuration, de la maturation de l'innovation pour monter en échelle TRL, comme je le disais tout à l'heure. Et en parallèle de ça, la personne qui était postdoc au sein du laboratoire sur ce projet-là a choisi de valoriser les résultats de recherche via la création d'une start-up dédiée à l'utilisation et à l'exploitation de ces résultats de recherche, donc Zara Abada, en collaboration avec le professeur Thibaudot, qui ont créé cette société-là pour pouvoir développer et exploiter ces résultats de recherche et fournir de nouvelles molécules à des clients comme des grands groupes pharmaceutiques ou des biotech. Donc ce projet, il ne s'est pas fait tout seul. En tout cas, il y a le SPVR qui a participé au projet avec le laboratoire, et puis le laboratoire de Paris initialement. Et puis après, il y a nos collègues de Néologie qui sont l'incubateur régional qui ont participé à toute l'élaboration du projet de start-up. Les collègues aussi de CNRS Innovation avec le programme RISE. Et puis d'autres intervenants comme la DI, comme des associations de dirigeants qui ont suivi le projet. Et tout ça, ça a abouti à la création de la société. Et là, la société est en train d'effectuer des prestations de services pour élaborer de nouvelles molécules avec des partenaires industriels.
Merci Romain pour cet exemple. Je me posais aussi la question quand j'ai préparé ce podcast. J'imagine que, en fait, quand on est entrepreneur, on doit être en veille sur les tendances économiques, mais pas seulement l'écoute des besoins, des prospects. Du coup, si le projet a aussi une facette innovante, comment on peut rester innovant dans son projet, selon vous ?
Rester innovant, c'est toujours être en veille sur ce qui se fait à côté. Parce que l'innovation, c'est quelque chose qui se démarque. Et donc, pour savoir si on se démarque, il faut être au fait de ce qui se fait sur le marché. Donc, c'est la même mécanique quand on est au sein d'un laboratoire de recherche académique. On regarde ce qui s'est déjà réalisé dans d'autres laboratoires, les publications scientifiques. On les lit et on voit quelles sont les opportunités, quelles sont les limites de telle ou telle expérimentation. Donc, il faut toujours être en veille sur le sujet. Et côté entreprise privée, c'est la même chose en fait. Il faut regarder ce que les concurrents et les personnes font. Et les opportunités, saisir les opportunités. Comme on en parlait tout à l'heure, ça peut être innover en créant un nouveau produit, une technologie de rupture dans le côté deep tech. Mais ça peut aussi être trouver une nouvelle fonctionnalité dans un domaine parallèle. Et donc voilà, l'innovation, elle peut se faire à différents titres. Il faut toujours être en mouvement. Il faut toujours être en veille et toujours se remettre en question.
Alors, comment rester innovant dans son projet ? Je pense qu'il faut vraiment observer quasiment en temps réel ce dont la société a besoin. Ça permet de se dire, sur mon projet, je vais devoir un peu pivoter, c'est-à-dire que je vais devoir, par rapport à la trajectoire initiale, essayer de répondre à cette nouvelle demande ou cette demande qui a été modifiée par rapport à ce que, initialement, j'avais observé. Alors, en général, pour les étudiants, pour les doctorants, c'est pas trop compliqué parce que ça arrive souvent dans leur thèse. Ils ont souvent, par rapport au projet initial qu'ils avaient, des déconvenues, quelque chose qui s'entre et donc qui change. Et donc du coup, ils ont cette capacité en général à pivoter. C'est assez important et j'ai vu des projets qui initialement avaient vraiment une trajectoire bien définie avec un cap au nord et puis tout d'un coup hop changement de besoin et puis cap à l'est et le projet il est toujours vivant et donc là en tout cas le projet avait su maintenir cette innovation et on parle souvent d'innovation de rupture dans les laboratoires de recherche, mais la plupart du temps c'est des innovations d'amélioration, c'est-à-dire que il y a déjà des inventions qui existent et on trouve un procédé meilleur ou avec un meilleur rendement, avec quelque chose qui est un peu moins polluant par exemple, ou un matériau pour une utilisation d'un matériau dans l'aéronautique par exemple. Donc c'est souvent de l'amélioration et c'est pas forcément de la rupture. La poursuite du projet au niveau innovation, on va dire que pour les doctorants et les étudiants, elle est assez naturelle parce qu'ils ont quand même cette capacité à pivoter.
Merci beaucoup à tous les deux donc d'avoir pris ce temps pour répondre à mes questions. Vous nous avez apporté des précisions précieuses dans le secteur de l'innovation. Avant de clôturer ce podcast, est-ce que vous avez des conseils à donner à d'autres entrepreneurs qui souhaitent innover dans leur domaine ?
Alors, quel conseil je pourrais donner à un entrepreneur ou à un étudiant qui souhaite être innovant dans son projet ? C'est de bien s'entourer des personnes qui vont apporter quelque chose au projet, alors que ça soit sur par exemple les inventions, c'est-à-dire faire de la collaboration ou aller voir des laboratoires de recherche par exemple, et puis aussi sur pour mener le projet entrepreneurial, aller voir les différents services et puis structures qui accompagnent ces projets innovants, tels que par exemple le SPVR bien entendu pour tout ce qui est en lien avec les laboratoires de recherche, mais aussi le PEPIT, aussi la Banque pour l'investissement, qui ne fait pas que investir, qui donne aussi des conseils sur la structuration de l'entreprise, des questions de ce type-là, et puis Néologie. Et des associations de dirigeants par exemple qui ont l'habitude de suivre des projets et vraiment avoir en tête de se dire voilà, j'ai pas forcément toutes les clés, par contre je suis chef de mon projet et donc en tant que chef de projet je vais aller chercher des ressources qui elles sont expertes sur des points bien particuliers et qui vont pouvoir m'aider à innover, à voir s'il y a un besoin au niveau de la société et comment y répondre du mieux qu'on puisse pour pouvoir in fine que le projet soit un succès et apporte la solution et apporte un impact à la société.
Le conseil que je donnerais aux jeunes entrepreneurs, comme moi, ce serait de s'entourer surtout de personnes bienveillantes, c'est facile à dire, mais de se rapprocher d'organismes qui peuvent aider à développer une idée, une innovation. Je parlais du SPVR, de Néologie Technopole. Ça peut être des organismes qui permettent de structurer un projet là où en fait on n'a pas de compétences, où on n'a pas toutes les compétences sur tous les sujets différents pour créer une entreprise par exemple. Et aussi d'aller au plus près du consommateur, de l'utilisateur, du client, d'aller dès qu'on peut auprès de l'utilisateur final. Et vraiment de partir de ce besoin-là pour ensuite voir si la technologie qu'on a développée, elle est pertinente, comment elle serait pertinente et comment elle est perçue. Ah si, j'ai un dernier conseil à donner aux auditeurs, c'est de bien définir le cercle d'or. Le cercle d'or, si ça vous parle, c'est définir le why, le how et le what. L'idée, c'est de savoir quel type d'entreprise, quel identité vous voulez véhiculer à travers votre entreprise. Le why, c'est la raison d'être de votre entreprise. Si vous n'avez pas ça, ça va être compliqué de communiquer. Ça va être un outil central, ça va déterminer votre vision. Il faut que vous sachiez exactement, faut que votre entreprise, elle transpire la vision que vous voulez lui donner. Donc le why, pourquoi elle existe, c'est hyper important. Le how, c'est comment, à travers... donc comment est-ce que vous voulez changer le monde, entre guillemets. Et le what, c'est avec quoi. C'est quoi le produit. Si on se focalise sur Pictamap, la société que j'ai créée en février 2024, le why, c'est améliorer la santé des territoires et accélérer la transition écologique. Le how, c'est à travers des enjeux écologiques, donc comment prendre en compte les enjeux écologiques en matière de biodiversité, en matière d'îlots de chaleur urbains, en matière d'environnement, au regard des enjeux socio-économiques. Donc ça, c'est le how, prendre en compte ces enjeux écologiques. Et le what, c'est à travers des outils cartographiques et des analyses statistiques. Donc voilà, c'est vraiment le produit. Et une fois que vous avez tout ça, le produit, il peut changer. C'est-à-dire que peut-être que demain, Pictamap, elle répondra à améliorer la santé des territoires à travers d'autres outils, peut-être cartographiques ou d'autres outils statistiques que ce qui existe aujourd'hui. Et pour autant, le cercle d'or restera le même et la vision de l'entreprise restera la même. Donc voilà, ça c'est un premier point intéressant. Et le deuxième point que j'aborderai aussi, c'est quel type de structure vous voulez. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez développer une start-up ? Donc la start-up stricto sensus, il n'y a pas vraiment de consensus sur la définition, ou alors c'est quand même assez compliqué, mais la start-up, c'est créer un produit et avoir une croissance exponentielle, un produit qui n'a pas forcément de marché aujourd'hui ou qui ne rencontre pas son marché aujourd'hui, et avoir une croissance exponentielle et avoir monté une licorne, entre guillemets. Une licorne, c'est une grosse start-up qu'on revend après. Est-ce que vous êtes plus créateur ou est-ce que vous voulez une structure, moi dans mon cas c'est un peu plus ça, une structure type bureau d'études où l'objectif c'est de répondre à une problématique, de pas avoir une croissance exponentielle comme une start-up. Et donc ça aussi, ça va déterminer la vision et l'objectif que vous allez vous mettre pour développer votre projet entrepreneurial.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Merci encore à Romain et à Élie pour ce temps d'interview. On arrive du coup à la fin de ce podcast. Nous avons beaucoup évoqué l'innovation technologique, de produits, de procédés. Mais l'innovation est aussi organisationnelle. L'innovation peut être aussi sur la commercialisation et aussi sociale, durable, environnementale. Nous l'évoquerons d'ailleurs dans un futur épisode. Donc étudiants ou doctorants, si vous avez envie d'entreprendre, vous pouvez nous contacter pour plus d'informations. Les dossiers de candidature sont en cours, vous pouvez encore postuler sur le site du ministère en tapant sur internet statut national étudiant entrepreneur. Donc Éveille ta pépite, c'est un podcast créé et animé par l'équipe du Pépite Nord-Aquitain de l'Université de Poitiers, avec la participation de toute l'équipe du SAFIR, donc le service d'accompagnement à la formation, l'insertion, la réussite et l'entrepreneuriat. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.